un journal présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Retour en classe pour de nombreux lycéens, réouverture des parcs et jardins, mais aussi des cafés, bars et restaurants sous conditions. Le gouvernement amplifie le déconfinement de la société française. Nous y reviendrons largement dans ce journal avec Pierre Neveu, Tara Schlegel et Hakim Kasmi. Plus de 4,5 millions de chômeurs en France, 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Le chômage atteint un niveau record en avril et les perspectives économiques ne sont guère encourageantes. Nous ferons le point avec Anne-Laure Jumet. EasyJet supprime un tiers de ses effectifs. La compagnie britannique à bas coût va licencier plus de 4500 personnes. Nous ferons le point avec Antoine Gignot. Depuis une heure maintenant, le gouvernement dévoile le détail de la deuxième étape du déconfinement. Le Premier ministre Édouard Philippe a débuté son intervention en insistant sur l'amélioration de la situation sanitaire, même si le virus continue à circuler. Nous sommes en ligne avec Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Pierre, quelles sont les premières mesures concrètes annoncées par le gouvernement ?
Eh bien, Édouard Philippe a répondu à l'impatience des Français en assouplissant les règles du déconfinement. Les indicateurs sanitaires sont bons. C'est ainsi que la carte de France n'est plus rouge dans le Grand Est, mais l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane passent à l'orange sur cette nouvelle carte. Le déconfinement sera un peu plus prudent que sur le reste du territoire, explique le Premier ministre. La liberté va redevenir la règle, l'interdiction, l'exception. Édouard Philippe trace ainsi les grandes lignes de cette phase 2. Il annonce la réouverture des collèges et des lycées dans les zones classées vertes, la réouverture des cafés, des bars, le retour de la vie culturelle et sportive sous conditions, la réouverture des parcs et jardins, notamment à Paris, dès mardi prochain, mais la limitation à 10 personnes dans les espaces publics est toujours maintenue. Édouard Philippe qui souligne également l'urgence économique du moment en rappelant les chiffres du chômage publiés ce matin, 800 000 demandeurs d'emploi en plus au mois d'avril. Le pays, dit-il, va devoir se battre contre l'impact d'une récession historique. Le principe du recours au télétravail doit encore être privilégié. Prudent dans son message, vous l'avez dit, Édouard Philippe rappelle que le virus est encore présent sur tout le territoire, mais sa vitesse de propagation est pour l'instant sous contrôle. C'est ce qui permet d'aborder cette nouvelle phase du déconfinement avec la limitation des 100 km qui disparaît à partir de mardi prochain. C'est une bonne nouvelle dans la perspective des vacances, mais le Premier ministre en appelle à la responsabilité de tous.
Pierre Neveu, merci. Et puis cette autre précision d'Édouard Philippe, les cinémas pourront rouvrir le 22 juin prochain sur l'ensemble du territoire. Alors effectivement, les résultats sont bons sur le plan sanitaire, si l'on en croit la déclaration en préambule d'Édouard Philippe. C'est justement cette amélioration qui permet l'accélération du déconfinement. Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir.
Et de fait, Tara, depuis plusieurs semaines maintenant, la pression diminue sur notre système hospitalier.
Oui, et le Premier ministre Édouard Philippe a d'abord voulu partager ces chiffres de surveillance de l'épidémie, qui sont de bons chiffres, a-t-il dit, mais ne courons pas le risque de la désinvolture, tempère le Premier ministre. Ce n'est pas parce que les départements sont passés au vert que le virus n'y circule plus, seulement sa vitesse de propagation en ce moment est sous contrôle, veut croire le gouvernement. Alors, pas au point que tout puisse redevenir normal. Toutefois, il y a encore 2000 malades Covid en réanimation, c'est un tiers des lits qui sont donc occupés par des patients Covid, et c'est beaucoup, a souligné Édouard Philippe. Édouard Philippe qui a ensuite laissé à son ministre de la Santé le soin de détailler les quatre indicateurs qui permettent de suivre l'évolution de l'épidémie et de constater que ça va mieux. D'abord, l'incidence. Le nombre de nouvelles infections dans plusieurs départements, note quand même Olivier Véran, on dépasse le seuil de vigilance. C'est-à-dire que les 10 nouvelles infections pour 100 000 habitants pendant une semaine sont dépassées. En général, c'est dû à des clusters identifiés, mais pas en Île-de-France par exemple, ce qui explique que cette région reste orange. Deuxième indicateur, le nombre de malades testés. 1,9% des Français qui sont testés en ce moment sont positifs. C'est 10 fois moins qu'au pic de l'épidémie et ça donc c'est un bon signe. Troisième indicateur, le fameux R, le facteur de reproduction du virus. Il reste inférieur à 1 pratiquement partout. Une personne malade en ce moment on contamine donc moins d'une autre et donc l'épidémie régresse. Enfin, le taux d'occupation des lits de réanimation, c'est le dernier critère qui a été évoqué. Il a permis de colorier presque toutes les régions en en vert, sauf l'Île-de-France et la Guyane. Ce taux a beaucoup baissé. Dans le Grand Est, par exemple, moins de 40% des places de réanimation sont actuellement occupées par des malades Covid, ce qui a permis à cette région de revenir quasiment à la normale. Or, c'était l'une des plus touchées, Stanislas, en France.
Tara Schlegel, merci. Cette deuxième phase du déconfinement va donc se traduire par le retour en classe de centaines de milliers d'élèves. Là aussi, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, est en train de préciser les choses. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Première indication, Hakim, de nombreux lycées vont rouvrir leurs portes dans les prochains jours.
Effectivement, Jean-Michel Blanquer vient de le confirmer, il y a une urgence sociale, c'est pourquoi l'ensemble des lycées vont pouvoir réouvrir. Mais attention, il y aura des conditions. En zone verte, tous les lycées pourront réouvrir avec au moins un niveau d'assurés, soit en première, soit en terminale, soit en seconde. C'est le chef d'établissement qui devra décider. En revanche, en zone orange, cette fois, il y aura certes une réouverture partielle, mais là, il n'y aura que des rendez-vous individuels entre un élève et son enseignant, notamment pour finaliser les dossiers dans le supérieur et Parcoursup qui se déroulent actuellement, car là, il y a urgence. Il y a aussi les conseils de classe à finaliser. En ce qui concerne le bac de français, là aussi, décision très attendue pour les 525 000 élèves de première concernés. Eh bien, comme pour les terminales, Jean-Michel Blanquer a donc finalement décidé d'annuler l'oral de français et il faudra donc se baser sur le contrôle continu avec les notes du premier et du deuxième trimestre. C'était une demande très importante et très forte de la part des parents d'élèves, mais aussi des enseignants, vu les conditions du confinement qui ont créé beaucoup d'inégalités et une fracture numérique en fonction des familles. En ce qui concerne le collège, cette fois, eh bien, tous les collèges de zone verte pourront réouvrir de la 6e à la 3e. En revanche, en zone orange, eh bien, il n'y aura que la 6e et la 5e qui pourront redémarrer avec là aussi un protocole sanitaire à respecter avec pas plus de 15 élèves par classe, des demi-groupes et aussi un masque obligatoire. Enfin, en ce qui concerne l'école primaire cette fois, en zone verte, eh bien, ainsi qu'en zone orange, toutes les écoles, là, cette fois, pourront réouvrir. 90% des communes ont dit oui pour l'instant. Jean-Michel Blanquer espère que 100% des communes seront prêtes pour réouvrir toutes les écoles en zone verte et en zone orange dans le primaire dès la semaine prochaine.
Hakim Kasmi, merci. Après les cours, les vacances en juillet, les vacances sont-elles un enjeu de santé publique? C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera à ses invités dans le temps du débat juste après ce journal. Édouard Philippe l'a évoqué, le chômage a littéralement explosé le mois dernier en France. Il y avait en avril 6 064 000 personnes inscrites à Pôle emploi, environ 210 000 de plus qu'en mars. Dans le détail, la catégorie A, qui regroupe celles et ceux qui n'ont plus aucune activité, compte plus de 4,5 millions de chômeurs, record historique. Beaucoup de ces nouveaux inscrits viennent des autres catégories. Ils ont en fait perdu leur travail partiel avec le confinement. Anne-Laure Jumet, bonsoir.
Bonsoir.
La situation risque de s'aggraver dans les mois à venir et au gouvernement, on cherche la parade.
Oui, car sans le chômage partiel, les chiffres dont on parle auraient été encore plus spectaculaires. Ce dispositif a couvert plus de 8,5 millions de personnes en avril. Ça a permis d'éviter des licenciements et donc des demandeurs d'emploi en plus. Mais la mesure n'a pas vocation à durer éternellement car elle coûte cher. L'État et l'UNEDIC vont d'ailleurs diminuer de 15% la prise en charge des salaires à partir de lundi prochain, les entreprises devant combler la différence. Et le gouvernement prépare déjà une alternative pour les secteurs durablement touchés par la crise, avec une part d'indemnisation en échange de garanties de maintien dans l'emploi. L'idée étant toujours d'éviter au maximum les suppressions de postes. Les précisions devraient être apportées la semaine prochaine. Autre axe, l'emploi des jeunes, alors que le chômage des moins de 25 ans a bondi de près de 30% le mois dernier. Un plan pour l'apprentissage sera notamment annoncé d'ici la fin de la semaine prochaine. Enfin, pour les demandeurs d'emploi, le ministère du Travail évoque depuis plusieurs semaines une remise à plat de la réforme de l'assurance chômage, dont le deuxième volet a pour l'instant été reporté au mois de septembre. Les syndicats réclament, eux, l'abandon pur et simple des nouvelles règles qui durcissent le calcul des allocations pour ceux alternant période de chômage et contrat court.
Anne-Laure Jumet, merci. Les anciens salariés de l'usine Goodyear d'Amiens ont gagné leur combat, tout au moins une première victoire. Le conseil des prud'hommes de la ville vient de condamner l'entreprise américaine à indemniser 832 d'entre eux. Ces ex-employés contestaient le motif économique invoqué par le fabricant de pneumatiques pour justifier leur licenciement en 2014. Les explications d'Hélène Fromanti.
13 ans qu'ils attendaient ça. Les anciens Goodyear d'Amiens soulagés, évidemment, par cette décision. décision des prud'hommes. Mesures sanitaires obligent, pas de gros rassemblements devant le tribunal, mais quelques-uns ont quand même fait le déplacement pour, je cite, le procès de leur vie. Des salariés d'autant plus satisfaits que leur ancien employeur devra verser les indemnités immédiatement, entre 2 et 4 années de salaire par personne. Preuve que le licenciement économique n'était pas justifié. Preuve surtout que Goodyear faisait des profits tout en supprimant des postes. On est très content, c'est sûr, confie un ancien salarié, mais ça n'enlèvera pas les emplois perdus, les familles détruites. Les proches sont prévenus par texto, certains appellent les camarades absents. On a gagné, entend-on ça et là, sans toutefois de saut de joie ni de liesse. Pour une victoire totale, assure un ex-délégué CGT, il faudrait obliger Goodyear à reconstruire une usine et à nous redonner du travail.
Hélène Fromanti de France Bleu Picardie. La mort de Claude Goasguen, figure majeure de la droite libérale parisienne, le député Les Républicains du 16e arrondissement a succombé ce matin à une crise cardiaque. Il avait 75 ans. Atteint par la Covid-19, Claude Goasguen avait passé 3 semaines en réanimation avant de pouvoir rentrer chez lui. Parmi les nombreux hommages, Nicolas Sarkozy salue la mémoire d'un homme entier qui aimait le terrain et la proximité. À l'étranger, les suppressions d'emplois se multiplient dans le secteur aérien outre-Manche. Après British Airways, Virgin Atlantic et Ryanair, c'est au tour d'EasyJet d'annoncer des coupes sombres dans ses effectifs. La compagnie britannique à bas coût va supprimer 4500 postes. Les précisions à Londres d'Antoine Gignot.
4500 suppressions de postes, c'est la disparition d'un tiers des effectifs. Impossible de faire autrement, explique le patron d'EasyJet. La compagnie publiera le mois prochain ses résultats trimestriels. C'est, dit-il, la pire crise que le secteur ait jamais affrontée. Car même si les vols reprennent à partir du 15 juin, au départ des aéroports de Gatwick et Luton, ce sera à minima 30% des voyages prévus habituellement. Le retour à la normale n'aura pas lieu avant 2023. Dans l'intervalle, la direction compte restructurer l'entreprise, réduire la taille de la flotte et les coûts de fonctionnement pour que la compagnie redevienne compétitive. Les négociations avec les syndicats vont s'ouvrir dans les prochains jours. Elles seront houleuses. Les représentants des salariés, et particulièrement des pilotes, parlent de décisions inconsidérées et de coups de pied dans les dents. Avec les mesures de chômage partiel et le prêt de 800 millions d'euros de l'État, il serait possible, disent-ils, de faire autrement et de préserver des emplois.
Antoine Gignot, notre correspondant au Royaume-Uni. Situation préoccupante également dans l'automobile. Nissan va réduire de 20% ses capacités de production dans le monde. Première victime, l'usine de Barcelone du constructeur japonais. Elle va fermer d'ici la fin de l'année. 3000 emplois seront supprimés. Demain, c'est Renault, le partenaire de Nissan, qui va dévoiler son plan d'économie. Le Figaro évoquait en début de semaine 5000 suppressions de postes dans les usines françaises de la marque aux losanges. Malgré les protestations occidentale, le Parlement chinois a adopté aujourd'hui une loi qui renforce l'emprise de Pékin sur Hong Kong. Le texte voté en présence du président Xi Jinping réprime toute atteinte à la sécurité nationale comme le séparatisme ou la subversion. En clair, les partisans de la démocratie à Hong Kong risqueront la prison s'ils continuent à manifester. Dans une déclaration conjointe, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie accusent la Chine communiste d'enfreindre ses obligations internationales. À Washington, Donald Trump a fait de Hong Kong un nouveau front dans sa croisade anti-chinoise. L'analyse de Claude Guibal.
C'est quelque chose dont vous allez entendre parler avant la fin de la semaine de manière très puissante. Une menace de représailles qui rappelle les grands accents guerriers que Donald Trump adore prendre dans les grands bras de fer internationaux comme il l'a déjà fait avec l'Iran, la Corée du Sud, le Mexique. Ce « retenez-moi ou je fais un malheur ». Hong Kong, a précisé la Maison-Blanche, pourrait difficilement rester un centre financier si la Chine en prenait le contrôle. La première flèche que les États-Unis pourraient lancer dans cette guerre par procuration pourrait donc être une flèche économique. Si les États-Unis retiraient effectivement à Hong Kong son statut de partenaire commercial préférentiel, Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, a ouvert la voie à cette première mesure hier en affirmant que Hong Kong ne jouissait plus de l'autonomie promise par la Chine. Et d'autres mesures pourraient être prises, dit-on dans l'entourage présidentiel, sans donner de détails sur la riposte qu'entend donner Donald Trump. Ce dernier, il y a 15 jours, sous-entendait qu'il pourrait aussi rompre les relations diplomatiques avec la Chine. Le statut de Hong Kong, ajouté à la crise du coronavirus, vient nourrir le discours belliqueux du président américain qui a besoin de remobiliser autour de lui pour la campagne électorale, alors que les indicateurs économiques, son principal atout, se sont effondrés sous l'effet du Covid. La peste chinoise, comme l'a déjà qualifié l'hôte de la Maison-Blanche.
Claude Guibal, merci à l'instant sur ta formation. La mort de l'humoriste et comédien Guy Bedos à l'âge de 85 ans. La disparition de Guy Bedos, c'est son fils Nicolas Bedos qui annonce la mort de Guy Bedos. Nous y reviendrons bien sûr très largement dans nos prochaines éditions demain matin. Un mot du temps, demain, pas de changement notable, du soleil et de la chaleur sur tout le pays, mais le ciel sera plus instable sur les Alpes et les Pyrénées avec un risque d'orage. Le matin, il fera entre 8 et 18 degrés du nord au littoral aquitain. L'après-midi, le thermomètre variera entre 18 et 32 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.